Victor Jesus Christus.
Revenir au cœur des choses, s'arrêter, se taire, prier pour nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. Commentant l'évangile de Marc ce dimanche, le pape François, lors de l'Angélus, a proposé une réflexion sur le sens d'un vrai repos, invitant les fidèles à cultiver une écologie du cœur. On y revient juste après les titres. Le pape qui a témoigné de sa proximité aux populations touchées par les intempéries dans l'ouest de l'Europe. L'Allemagne est le pays le plus touché avec 160 décès. La chancelière Angela Merkel s'est rendue hier au chevet des sinistrés. Une aide d'urgence d'au moins 300 millions d'euros sera présentée par le gouvernement. Au sommaire également, la visite du cardinal Parolin à Monaco, un déplacement de 3 jours à l'occasion du 40e anniversaire de la convention signée entre le Saint-Siège et la principauté de Monaco. Vous entendrez le secrétaire d'État du Saint-Siège dans quelques instants. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur le motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, qui réforme l'usage du missel de 1962. Comment ce texte et la lettre aux évêques qui l'accompagnent ont-ils été accueillis par l'Église de France ? Témoignage de Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras, en deuxième partie de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonjour, un appel à faire une pause et profiter des vacances pour se détacher de la frénésie du monde. Le pape François, hier, avant la prière de l'Angélus, est revenu sur l'évangile de saint Marc lorsque Jésus invite ses apôtres à se reposer. Repos et compassion, deux mots-clés au cœur de sa réflexion. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Bien qu'il se réjouisse de voir ses disciples heureux grâce aux merveilles de la prédication, Jésus ne s'attarde pas sur les compliments et les questions, mais s'inquiète de leur fatigue physique et intérieure, a souligné le pape. Il veut les mettre en garde contre un danger qui nous guette tous, se laisser entraîner dans la frénésie de l'action, tomber dans le piège de l'activisme, a-t-il précisé. Combien de fois cela arrive-t-il dans l'Église également ? Nous sommes occupés, nous nous précipitons, nous pensons que tout dépend de nous, et à la fin nous risquons de négliger Jésus, a relevé François. Aussi, le repos dont parle Jésus n'est pas seulement le repos physique, mais également le repos du cœur. Le Saint-Père a ainsi appelé à revenir au cœur des choses, s'arrêter, se taire, prier, pour ne pas passer de la course du travail à la course des vacances. Et le pape d'inviter ainsi les fidèles à faire une pause, à éteindre le téléphone portable pour regarder les gens dans les yeux, à cultiver le silence, à contempler la nature, à nous régénérer dans le dialogue avec Dieu.
Il secondo aspetto. La compassion.
Autre mot-clé mis en avant par François, la compassion, c'est celle de Jésus devant la foule venue l'écouter. Seul le cœur qui ne se laisse pas emporter par la précipitation est capable de s'émouvoir, a-t-il relevé, c'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer en lui-même et dans les choses à faire, et de remarquer les autres, leurs blessures et leurs besoins. Si nous apprenons à nous reposer vraiment, nous sommes alors capables d'exercer cette compassion. Le pape a ainsi rappelé que nous avons besoin d'une écologie du cœur, faite de repos, de contemplation et de compassion. Profitons de l'été pour cela, a-t-il lancé aux fidèles.
Profitiamo del tempo estivo per questo.
Olivier Bonnel, et à l'issue de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a tourné son regard vers deux pays théâtre ces derniers jours de vagues de violence. L'Afrique du Sud tout d'abord, et le Saint-Père a appelé à la concorde. Il a ensuite témoigné de sa proximité aux Cubains en ces temps difficiles, en particulier aux familles, priant pour la paix, le dialogue et la solidarité. Le pape François s'est également fait proche des habitants d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas qui ont été frappés par des pluies diluviennes. Que le Seigneur accueille les défunts et réconforte leurs familles, a-t-il déclaré. Le bilan des intempéries de ces derniers jours s'élève à 191 morts, 160 en Allemagne et 31 en Belgique. La chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue hier sur place, promettant une aide rapide de l'État à Berlin, Nathalie Versieux.
Visiblement émue, Angela Merkel est allée à la rencontre des habitants de Schuld, commune particulièrement sinistrée, avec 110 morts du fait des inondations. Les mots nous manquent presque dans la langue allemande pour décrire ce qui s'est passé ici, a déclaré la chancelière, promettant une aide rapide de l'État fédéral. Le Conseil des ministres de mercredi adoptera un plan d'urgence de 300 millions d'euros ainsi qu'un programme de reconstruction de plusieurs milliards. Angela Merkel a aussi promis un changement de politique face à l'urgence climatique. Avec les inondations, l'environnement s'est invité au centre de la campagne électorale en vue des législatives du 26 septembre, d'autant qu'on est loin d'un retour à la normale. Plus au sud, la Bavière et la Saxe sont à leur tour touchées par des pluies diluviennes et des crues dévastatrices. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
des journalistes, des responsables politiques, des avocats ou encore des militants des droits de l'homme de différents pays espionnés via le logiciel israélien Pegasus. C'est ce que décrivent plusieurs médias, dont Le Monde et le Washington Post, dans une enquête publiée ce dimanche. 50 000 numéros de téléphone portable ont potentiellement été ciblés pour le compte d'une dizaine d'États. Un service de sécurité marocain aurait utilisé ce logiciel espion pour cibler une trentaine de journalistes et de patrons de médias français, selon cette vaste enquête. En Éthiopie, les forces tigréennes ont ouvert un nouveau front dans leur lutte contre les autorités. Elles ont annoncé hier avoir mené des opérations visant des forces gouvernementales dans la région Afar. Il s'agissait d'une action très limitée, destinée à disperser des milices de paysans dont la plupart étaient contraints de participer à cette guerre inutile, a indiqué le porte-parole des rebelles. Les combats se poursuivent en Afghanistan alors que des pourparlers entre les talibans et des représentants politiques afghans ont repris à Doha depuis samedi. Dans un communiqué commun, les participants ont annoncé qu'ils continueraient à dialoguer jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, mais les combattants islamistes refusent toujours de partager le pouvoir avec les autres factions. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
Le dialogue qui a commencé au Qatar est apparu comme une lueur d'espoir alors que les combats ont poussé des milliers de civils hors de chez eux. Mais les négociations n'ont pas débouché sur un cessez-le-feu. Surtout, un accord de partage du pouvoir paraît impossible. Le chef des talibans, le mollah Akhundzada, n'a offert qu'une seule option à ses adversaires lors d'un message publié dimanche à l'occasion de la fête de l'Eid, capituler. Il a appelé les autres partis à accepter le régime politique des talibans sans même évoquer le gouvernement d'Ashraf Ghani. Il a également incité les membres des forces de sécurité à déposer les armes et à rejoindre son mouvement. Depuis plusieurs semaines, de nombreux postes de l'armée afghane se sont rendus sans combattre, une démarche que le mollah Akhundzada n'a pas manqué de saluer dans son message. Difficile dans ces conditions d'imaginer que les talibans accepteront de gouverner d'égal à égal avec d'autres leaders politiques, les combats vont se poursuivre pendant de longs mois. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Kaboul a rappelé hier son ambassadeur en poste à Islamabad, une décision prise à la suite de l'enlèvement durant plusieurs heures de la fille de son représentant au Pakistan et, précise le militaire afghan des affaires étrangères, tant que n'ont pas disparu les menaces sur leur sécurité. Le Pakistan a qualifié la décision afghane de malheureuse et regrettable. L'Afghanistan et le Pakistan entretiennent des relations tendues depuis de nombreuses années. Kaboul accuse son voisin d'accueillir sur son sol des talibans. Les liens étroits entre le Saint-Siège et Monaco, c'est ce qu'a voulu réaffirmer hier le cardinal Pietro Parolin. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est en visite officielle depuis samedi et jusqu'à ce soir dans la principauté à l'occasion du 40e anniversaire de la convention signée par le Vatican pour élever le Rocher au rang d'archidiocèse. Une collaboration historique entre les deux plus petits États du monde qui ne manque pas de convergence de vues sur plusieurs sujets comme la santé ou l'environnement. Le cardinal Parolin nous explique les raisons de son déplacement.
J'étais très heureux d'accepter cette invitation des autorités, du prince, parce qu'il me semble important de souligner cet anniversaire, cette convention qui a permis d'élever la diocèse au rang d'archidiocèse pour manifester d'un côté les bonnes relations qui existent entre la principauté et les Saint-Sièges et aussi, disons, l'estime et l'appréciation manifestée par le pape Jean-Paul II envers la principauté à l'époque, parce qu'il était l'auteur de ces documents.
Du point de vue du Saint-Siège, comment est-ce que vous regardez cette exception que représente Monaco aujourd'hui dans le paysage européen avec ce statut rare d'État officiellement catholique?
On la regarde, disons, comme un héritage du passé, premièrement, mais on la regarde surtout comme une opportunité. Et je pense que aussi ma présence ici veut dire qu'on apprécie encore cette formule qui permet d'un côté une collaboration très constructive avec l'État dans la distinction, no, et l'autonomie de chaque réalité. Et alors la collaboration et en même temps la reconnaissance du rôle public de la religion. Je pense que ça c'est important.
Des propos recueillis à Monaco par Delphine Allaire. Plus d'informations sur ce déplacement à l'adresse vaticannews.va. Le pape François, après avoir consulté les évêques du monde entier, a décidé de réformer l'usage du missel de 1962. Dans un motu proprio intitulé « Traditionis custodes », publié vendredi dernier, il pose de nouvelles conditions à son usage avec un encadrement très précis. Dans une lettre adressée aux évêques, le Saint-Père détaille les motifs de sa décision. Il se dit attristé par les abus dans les célébrations liturgiques d'un côté comme de l'autre et relève une instrumentalisation du missel de 1962 de plus en plus caractérisée par un rejet croissant non seulement de la réforme liturgique mais aussi du Concile Vatican II. S'exprimant au lendemain de la publication de ce motu proprio, les évêques de France ont évoqué un appel exigeant pour toute l'Église. Comment ce texte a-t-il été accueilli par l'Église de France? Nous avons recueilli le témoignage de Mgr Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, qui suit les questions concernant les relations avec les communautés dites traditionnalistes.
J'ai reçu avec gravité parce que l'enjeu est important. D'ailleurs, la lettre du pape aux évêques le manifeste d'une manière très forte, peut-être même pour nous Français inattendue, mais ce texte est bien pour l'Église universelle. Donc avec une vraie gravité pour accueillir ce motu proprio, les enjeux d'unité qu'il porte, les enjeux liturgiques qu'il décrit, et puis pour exercer aussi la responsabilité qui est la nôtre dans le cadre défini, puis avec une vraie aussi charité pastorale, une vraie attention pastorale à ceux qui ont l'habitude de célébrer avec les livres liturgiques de Saint Jean 23.
L'usage du rite romain extraordinaire sera désormais très encadré. Célébrer avec le missel de 1962 devra se faire en totale communion avec l'évêque. Une responsabilité majeure est ainsi confiée aux évêques. Comment avez-vous accueilli cette décision?
Plutôt favorablement, mais la communion avec l'évêque, c'était déjà une condition fondamentale. Et dans la très grande majorité des lieux en France, cela est le cas. Il y a quelques lieux plus tendus, mais dans la majorité des lieux, c'est le cas actuellement. Et nous allons continuer à travailler dans cette communion avec le cadre défini.
Le pape François s'est dit attristé par une instrumentalisation du missel de 1962. Il souligne un rejet du Concile Vatican II qui alimente une tendance à la division. C'est une tendance qui a été constatée en France?
C'est pas une tendance de fond pour ce que je peux en connaître, mais on a remarqué de fait telle ou telle personne, tel ou tel groupe, où la messe pouvait être instrumentalisée et puis où le motu proprio de Benoît XVI était mal compris. Le motu proprio avait bien rappelé que la forme ordinaire, la lex orandi, c'était le missel de Paul VI et de Jean-Paul II, réforme, enfin revue par Jean-Paul II, et avec une forme extraordinaire, mais qui restait extraordinaire. Et petit à petit, on a voulu les équiparer, voir et dire que la forme extraordinaire était meilleure que le missel que célèbre le pape, les évêques et la majorité des fidèles. Donc on a senti chez certains un glissement, mais vraiment, on peut pas dire que ce soit une tendance de fond. Je parle pour la France, bien sûr.
Le pape François indique avoir pris cette décision pour défendre l'unité du corps du Christ. Il va y avoir tout un travail à faire dans les diocèses pour expliquer le sens de ce motu proprio aux fidèles, aux prêtres, notamment à ceux qui souhaitent célébrer avec l'ancien missel.
C'est clair, le pape a mis des conditions quand même très claires, très précises. On sort du flou, d'un certain flou qui pouvait exister. Certains ont finalement une interprétation, et c'est étonnant, enfin peut-être pas si étonnant que ça, mais une interprétation très moderniste. Finalement, on peut faire ce qu'on veut. Ben non, dans l'Église, on reçoit la liturgie, y compris quand on est prêtre. Et quand on met en œuvre le rite romain, on ne se balade pas d'une forme à l'autre. Ça, je l'ai vu aussi quelques excès. Ce que je note, c'est que, d'une part, les diocèses sont très inégalement concernés. J'ai été vicaire général du diocèse de Versailles où il y a plusieurs communautés qui célèbrent selon l'ancien missel. Je suis dans le diocèse d'Arras où j'ai un lieu, mais un seul lieu et qui n'a pas problématique du tout, du point de vue liturgique. Donc les diocèses sont très très inégalement concernés par ces motu proprio. Et la deuxième chose, c'est que quand on lit la lettre aux évêques, on voit que le pape demande un renouveau eucharistique et une nouvelle attention à la liturgie pour toute l'Église, et pas seulement pour le missel extraordinaire, mais aussi pour la mise en œuvre du missel romain, du missel romain qui est la lettre rendue de l'Église. Le pape a des mots très clairs. Il y a eu des excès aussi, et ils tous sont concernés par ce renouveau liturgique et eucharistique. Et ça, il va falloir qu'on travaille partout.
Mgr Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée. Au revoir.